Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le samedi 18 mars. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbock. Aujourd'hui, nous allons faire une chronique, on va dire quoi, très peu politique, bien quoique ça va être une chronique environnementale, une chronique sociale, une chronique judiciaire et une chronique peut-être sécuritaire. C'est vraiment basé à partir du vécu ici, de mon vécu. Ah, une fois n'est pas coutume, hein, j'ai parlé de moi, mais peut-être avant de parler de tout cela, on va quand même dire la grosse nouvelle hein, qui risque de fendre le ciel américain la semaine prochaine. Monsieur Trump annonce que mardi, il se peut qu'il soit mis en examen, je ne sais pas trop, ou mis aux arrêts, je ne sais pas trop, pour une affaire de mœurs qui date, puisqu'il s'est présenté à la prochaine élection et que lui, il n'est pas pour la guerre. Alors, tous ceux qui sont pour la guerre, c'est-à-dire tous ces lobbies financiers, tous ces lobbies de pouvoir, tous ces lobbies qui gèrent le monde d'une façon vraiment bestiale, sont contre lui, parce que s'il est élu, ben, la guerre en Ukraine, c'est fini, et puis les guerres aussi, un peu partout, bon, ça va être fini, et puis bon, les gens n'auront plus d'argent, les voyous, etc., etc., c'est tout. Je dis, Trump, à lui tout seul, représente une idéologie radicale sur la gestion du monde et qui fait que, à lui tout seul, il représente un danger pour ce qu'on appelle le système communément, de façon. Parce que nous sommes lâches, hein, nous ne voulons pas nommer les gens. On sait très bien quelle est l'identité des gens qui font tout ceci et qui se présentent hein, sous des formes. Oula, je suis enrhumée, c'est terrible. Sous des formes angéliques. Et ces formes angéliques font que nous savons très bien que c'est le démon, mais nous faisons avec. Et puis surtout, le démon a dit, vous me nommez jamais, sinon je vais pleurer. Et sinon, je vais, enfin, quand on dit pleurer, c'est-à-dire tricher pour faire émerger l'émotion à la place de la raison, et puis toutes choses trompeuses qui vont vous mener à croire que le diable est pur et vierge. Bon, on sait très bien qu'il mène la danse, mais bon, nous sommes lâches, allons-y pour la lâcheté. Il faut pas nommer, il faut nommer personne, il faut nommer personne, il faut juste regarder Satan faire ses choses tranquillement, tuer, et puis bon, tout le monde est content. Donc, Monsieur Trump, en ce moment, il attaque directement le milliardaire Soros, parce que les autres, c'est un peu des groupuscules comme les lobbies militaires ou industriels, le complexe, comme on dit, de l'OTAN. C'est global. Hein, donc, le Satan se noie comme ça derrière les institutions. Les institutions sont vérolées, on le sait. Et personne ne dit rien. Et en parlant de cela, vous voyez bien avec Monsieur Macron qui va sortir son 49-3 encore et encore et encore pour passer ses textes. Qu'est-ce qui se passe là? Nous savons bien que les institutions sont corrompues, à la fois par la gangrène mondiale qui ne se montre pas. Et cette corruption fait que ils ont trouvé les failles pour percer le fonctionnement institutionnel. Et quand on trouve ces failles-là, nous autres, enfin les autres personnes qui sont le législateur et le citoyen d'ailleurs, ne demandent pas à ce qu'on colmate les failles. Vous savez, tous ces textes ont été pris quand Montesquieu écrivait l'esprit de la loi. C'est-à-dire que au-delà de la loi, il y a une certaine posture morale qui est attendue des dirigeants. Or, il se trouve qu'on n'a plus ça. Les dirigeants aujourd'hui, c'est des saltimbanques. C'est vraiment des salauds qui arrivent là par le biais des partis politiques, organisations, opportunisme et maintenant l'homosexualité, parce qu'on voit très bien que c'est ça le but, la prise de pouvoir et la formation d'une nouvelle humanité, d'un nouvel homme. On peut même plus dire qu'il sera satanique. On ne sait pas ce que ça sera. Un homme hybride qui n'est ni homme ni femme, voyez un peu, qui n'est. Ni ci, ni ça, et on ne sait pas ce que c'est, mais c'est ça qui va diriger le monde. Et quand on a choisi de... Même l'Église est perdue, elle n'a plus ses dogmes, elle n'a plus ses principes. Quand on a fait ces lois, c'est parce qu'on savait quand même que les gens étaient responsables, c'est-à-dire que en l'occurrence, pour utiliser le 49.3, la machine lourde, hein, le gros appareil, il faut au minimum que le gouvernement soit majoritaire. Vous ne pouvez pas avoir Macron, il est là, c'est par défaut, c'est vraiment. Je veux dire, ça n'a même jamais été pensé, c'est l'impensable qu'on puisse être aussi minoritaire et être au pouvoir. Autant on est majoritaire, on peut utiliser le 49-3 parce qu'on peut invoquer le fait que oui, ben, ce sont les magouilles politiques qui m'empêchent de passer alors que j'ai eu la légitimité sociale. Autant lorsqu'on est déjà minoritaire et qu'on ne devait vraiment pas être là, si on est là, on doit quand même diriger avec l'opposition majoritaire, parce que c'est l'opposition qui devient la majorité, mais en fait, ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, automatiquement, l'utilisation du 49-3 doit être interdite, suspendue, car vous n'avez pas de majorité. Donc, toutes les institutions sont... Vérolé, comme j'ai dit, dans ce sens-là, où M. Biden va aller faire sa guerre en Ukraine, vous voyez, il va pas dire que l'Amérique est en guerre, mais l'Amérique va donner de l'argent sans arrêt, en sachant très bien que cet argent va à la guerre en Ukraine. Tout cela, il y a des moyens de le bloquer, cela. La guerre, soit vous la déclarez, soit vous la déclarez pas, mais toutes ces guerres en catimini, là, comme des petits voyous, les guerres clandestines, c'est ce que M. Biden a apporté à l'Amérique aujourd'hui. C'est la clandestinité généralisée, c'est-à-dire le brigandage qui va avec. Pardon, hein, un clandestin, c'est pas un enfant de cœur. Moi, je l'ai toujours dit, hein, les clandestins, les sans-papiers, c'est pas. Quand vous entrez quelque part dans la clandestinité, vous êtes déjà dans l'illégalité et vous avez des relents et des penchants de banditisme qui ne peuvent pas vous quitter. C'est pas possible, c'est comme ça, c'est naturel. Voilà. Et donc, que ça arrive de façon accidentelle, c'est une chose. Mais quand c'est institutionnalisé, comme ce que M. Biden fait avec la guerre en Ukraine, comme ce qu'il fait avec les gazoducs qu'il a allé faire exploser, qui ravitaillaient le gaz en Europe, comme ce qu'il fait avec l'immigration dans le Texas, c'est des choses. Un homme politique ne peut pas se comporter comme ça, c'est des comportements de délinquants. Bon, les institutions ne prévoient pas comment arrêter ce genre de folie au pouvoir. On ne prévoit pas. Donc on a ça, on constate ça et on se dit, ben, le législateur ne fait plus son travail. On ne fait plus le travail qui est de faire, d'ajuster. De regarder partout où ça peut tricher et de corriger. Ça ne veut pas dire qu'on revient à la Constitution, non. Mais ça veut dire que ben, le monde évolue, la perversité évolue, le cynisme évolue, le satanisme et tout ce que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup, nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux, et tout le monde veut arriver, et chacun va emprunter les chemins de traverse pour rester là et pour y arriver. Donc, on ne fait pas le travail, on fait un peu un travail à côté où on bavarde beaucoup et le travail de fond, il n'est pas fait. Il n'est pas fait, on le voit un peu partout. On voit ici, quand j'ai dit là j'ai commencé par une chronique politique, bien sûr, mais je voulais vraiment faire une chronique environnementale. La chronique environnementale, enfin, pas seulement environnementale, des volets. Bon, environnementalement parlant, ici au Cameroun, c'est vrai qu'il y a un déboisement sauvage, qui n'est alors pas nourri, parce que là aussi, c'est des opportunistes, des clandestins, des bandits qui coupent le bois, et ce n'est pas régulé, ce n'est pas normé. Vous êtes bandit, vous allez, vous coupez le bois, vous faites ce que vous voulez, mais or, vous le coupez n'importe comment. L'État n'est même pas capable, comme en Europe, On coupe pas les arbres comme ça. Mais ici, oui, on les coupe comme cela, sans tenir compte de l'écosystème. Alors, ça fait que cette année, moi, je suis en plein dedans, hein, j'essaie de faire mon agriculture comme je peux. C'est une nouvelle voie. Bah, franchement, si j'avais su cela avant, j'aurais emprunté plus tôt en faisant toujours ce que je faisais. Cette année, c'est terrible, on ne comprend pas. Depuis novembre, décembre, janvier, février, nous sommes au mois de mars. Et il n'y a pas de pluie. Et il n'y a pas de pluie sur certaines zones bien précises, en particulier la mienne. Pas étonnant, Botmakak centre, dans un rayon de, disons, 10-15 km. Il n'y a pas d'eau. Il pleut un peu partout, là, à côté. Il pleut à Yaoundé, il pleut à Douala, il pleut un peu partout, de temps en temps. Il pleut pas ici. Et quand il pleut pas ici, et ça, c'est pas étonnant, parce que nous avons quelque chose quelque part en Amérique, j'ai oublié comment on appelle ce système-là, qui peut créer des tremblements de terre, comme on a vu dans l'Asie ou comme on a vu en Turquie. C'est donc toute une science qui étudie la géothermie et qui peut créer ce qu'on appelle un terrorisme écologique quand on vous cible, si vous êtes seulement un opposant politique. C'est-à-dire que je suis parti de la France, on a dit que je bouffais trop de RSA, je savais le RSA, je viens ici. Ah non, vous nous devez un peu d'argent parce que vous avez passé 6 mois là-bas, on vous a payé, ben, quelle affaire. Et puis ici, oui, peut-être parce que j'ai fait cette plantation de plantain, ben, alors on va poursuivre, parce que c'est ça le satanisme à la tête de ce monde, ce serpent que personne ne veut désigner. On va créer un microclimat là où vous êtes et tout ce que vous produisez va s'assécher parce qu'il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie et s'il n'y a pas de pluie, ben, il n'y a pas de production, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait et on va dans, comme ça qu'on crée la famine dans certaines régions, le terrorisme écologique. On n'en parle pas, ou plutôt on en parle sous la forme de ce qu'il vous présente comme le climat, gna, 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 et il y a de fortes raisons, et M. Trump est sur cette ligne-là, de se dire que ben, cette histoire de climat, c'est des conneries. C'est des conneries parce que changement climatique, mon œil, c'est organisé par ce même démon qui gère le monde, que tout le monde voit, tout le monde connaît. Et qu'est-ce qu'il faut faire là aussi? C'est comme pour les institutions politiques, au lieu de lutter contre cela, c'est-à-dire qu'en avançant avec la science aussi dans chaque nation, l'Afrique par exemple, n'a aucun projet scientifique dans ce sens, ou l'Asie, pour contrer ces attaques terroristes de l'écologie et qui viennent du ciel aussi. C'est pas seulement de là-bas où on dit qu'ils ont. Un grand, j'ai oublié le nom de comment ce truc-là s'appelle, mais je vais le trouver, on mettra un résumé. Un grand centre qui serait au fond de la mer, à combien de kilomètres en bas, pour organiser tout cela. Mais il faut aussi voir tout ce qui vient du ciel. Et on dit qu'il n'y a pas de travail dans les pays sous-développés. Mon Dieu! C'est ça le travail, c'est ce qu'il faut faire. C'est une armée de juristes qui réforment, qui pensent, pas seulement les juristes, les philosophes. Les philosophes, d'ailleurs, plus que les juristes, qui ajustent ces institutions qui sont complètement malades. Et toute la science qu'il faut pour contrer le terrorisme écologique, pour contrer le terrorisme, vous voyez, la 5G au Cameroun, je crois qu'on va y passer, mais ailleurs, on réfléchit de ne pas passer comme ça ces conneries, parce que c'est ça qui permet d'espionner les gens dans leur chambre, c'est ça qui permet. Et cet espionnage-là, c'est toujours le même démon qui le fait. Ce n'est pas parce qu'il y a une sécurité quelque part, non. C'est pour sucer votre sève créatrice, bon Dieu. Et c'est pour après, comme on fait à Trump aujourd'hui, c'est pour persécuter. Comment vous pouvez laisser le démon persécuter le monde et ne rien faire? Bon, l'Église, elle s'en fout, elle s'occupe plus de cela. Donc, il faut oublier l'Église. Elle parle, elle parle, elle parle, c'est bien beau. Mais elle ne conseille pas les dirigeants de faire ce travail-là. Il y a tout un autre travail à faire que cet emploi. Et on voit très bien pourquoi nous calons, parce que nous continuons à penser l'emploi en termes anciens, quoi. Alors qu'il y a des nouvelles attaques, des nouvelles menaces qui font que il y a un nouveau vivier d'emploi qui est là, qui dort et personne ne veut y aller, mais parce qu'on a peur du serpent mondial. Il interdit cela, vous ne pouvez pas le faire. Bon, alors ils vous abreuvent à coups de commerce, à coups de... Bon, on a ici hein, au Cameroun, c'est vraiment le laisser-faire, hein, c'est la zone libre et désertique, chacun vient s'installer, vous avez l'argent, vous venez, vous faites ce que vous voulez. C'est lamentable parce que sur place, les gens n'ont pas de travail. Et les autres viennent encore avec leur concurrence déloyale, bon, chronique environnementale, c'est comme ça, terrorisme écologique. Et on passe au terrorisme social. Bon, moi, j'ai une histoire personnelle, alors que je vais vous raconter, mais je ne sais même pas, ça va être trop long, donc je vais vraiment abréger. Toujours, vous savez, quand je suis arrivée ici il y a 4 ans et demi, j'ai pensé à tout sauf à ce que je pouvais vivre, parce que vous voyez, l'ennemi vient jamais très loin. Pour ça, je parle l'Église. L'ennemi, il est là devant vous. Alors, je trouve que ma famille, oh, elle m'en veut depuis que je suis venu en France en 1985, soi-disant, comme moi, je suis l'aîné de la famille. Et je précise, je suis venu en France 2 mois même. J'ai travaillé très vite, à 21 ans, j'étais secrétaire de direction en brasserie du Cameroun. Le groupe racheté par Castel, et très vite, 4 ans après, je suis venu en France par mes propres économies, mes propres moyens. Mon papa n'a jamais, il n'était pas démuni, hein, il a été sous-préfet, il n'a jamais été mêlé de près ou de loin à cela, il regardait, il constatait. Alors moi, j'ai une famille qui depuis pleure, qui sont malheureux, ils ne sont pas venus en France, j'aurais dû les faire venir. Moi, je ne suis pas un sans-papier, parce que les sans-papiers, quand ils viennent là-bas, ils ramènent toute la famille. Ils vident alors tout le village, hein, si possible. Ils viennent tous sans papier. Dès que le premier est arrivé, tous les autres vont suivre. Bah, c'est comme ça. Et cette immigration-là, moi, j'ai dit que la France l'a choisie parce qu'après, hein, ça se passe comme ça se passe. Bon, moi, nous sommes venus, ma génération en 85, on ne venait pas pour rester d'abord en France. On est venu d'ailleurs avec des contrats. Moi, par exemple, avec un contrat de l'État pour rester 10 ans et puis apprendre 10 ans et revenir travailler ici. Donc, c'était même pas un projet. Et puis, ramener toute la famille, pourquoi faire? Ça, c'est les trucs des gens qui n'ont rien à faire ici. Et mon papa, il avait une situation, on a du terrain. Je veux dire, les gens qui ne sont pas partis à l'école, quand nous, on venait en France, avec notre mentalité, on n'est pas venus comme des illettrés. Nous sommes venus après des bacs, après des licences, dès qu'on savait ce qu'on faisait, puis nous sommes venus normal, nous sommes allés à l'ambassade, tout s'est fait normalement. Moi, l'ambassade m'aurait dit non, vous vous inscrivez pas à l'université et tout, je ne serais pas venu, hein. Je serais resté là, je travaillais déjà. Bon, alors, je n'étais pas vraiment démuni, je n'étais pas à la recherche, j'étais à la recherche du savoir, parce qu'on était un peu des révolutionnaires, on rêvait un peu, on se disait, il faut qu'il y ait un autre rapport de la France avec l'Afrique, un peu, on rêvait un peu, et que l'Afrique irait mieux si la France aussi essayait de bouger et d'aller vers une meilleure coopération, ce qui est toujours vrai d'ailleurs. On est venu comme ça, changer le monde, changer l'Afrique. Bon, voilà, que la France, la place de l'Afrique soit meilleure. Et mon Dieu, à ce moment-là même, déjà, l'Afrique, c'était promoteur. Ça promettait, elle était prometteuse. Aujourd'hui, rien du tout. C'est la régression fondamentale. Donc, moi, je n'étais pas dans cette logique. Alors, j'arrive là, je rencontre une opposition terrible. J'ai un petit frère qui est resté au village. Moi, je suis là, on est tous les deux, il y a beaucoup de terrain. Lui, il s'est érigé propriétaire exclusif de toutes les terres, y compris de celles de ses frères et sœurs qui viennent pas forcément travailler. Donc, lui, il s'occupe de tout ça. Et quand j'arrive, il m'emmerde pendant 4 ans. Pendant 4 ans, la première année, j'envoie des gens là-bas. Bon, vous savez que les 3 premières années, je suis malade régulièrement, donc j'envoie les gens quand je suis là. Et quand ils vont, il y a toujours des problèmes. J'avais jamais su que c'était lui. Et puis, je saute rapidement parce que si je vais dans les détails, vous allez voir le sordide qui fait que ici, attendez, la première année, ces gens que j'envoie, il y a un qui me dit, mais maman, parce qu'ici, c'est ça, il n'y a pas le madame, c'est maman. Il y a un monsieur qui m'a interpellé, il est comme ci, comme ceci, il m'a dit d'arrêter d'aller défricher le champ. Et je lui demande le portrait, il me fait le portrait, c'est mon petit frère. Ah, je lui dis, bah, tu lui as dit quoi? Il me dit, je lui dis, bah, j'arrête pas, c'est moi, c'est mon gagne-pain, c'est la maman qui me dira d'arrêter, moi, j'arrête pas. Il a continué, mais toujours est-il dit qu'il a trouvé là des failles lui-même, il était avec un autre. un autochtone d'ici et puis un nordiste, ils ont trouvé ils mentaient. On a fait 1 hectare déjà, on a fait 2 hectares, on a fait 3 hectares. Moi, je savais pas, je mesurais pas. J'ai payé, ça fait, vous payez 150 euros, c'est à peu près 50 euros l'hectare. Et puis, les frais de déplacement, les frais de nourriture, ils vous assèchent. C'est comme ça qu'ils sont. Après, c'était tout du faux. Vous avez planté quoi? Oui, il faut envoyer, on va planter, non, rien planté. Première année, deuxième année, je prends quelqu'un, il met, là j'ai suivi 850 rejetons en plante, qui disparaissent dans la nature parce qu'il paraît qu'on verse l'insecticide dessus, non, l'herbicide, et ça meurt, c'est un classique. Quand on demande à mon petit frère, le chef du village, je lui dis, mais quand même, ta soeur, elle peut pas pète comme ça, 850 plants, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, fais-moi pas dire surveiller, hein. Donc moi, qu'est-ce que je m'en fous, hein, si elle me dit pas. Il est au village tout le temps, le champ est en face. J'ai sauté une étape aussi, étape zéro, c'est bon. Troisième année, quelqu'un d'autre vient, là, je suis toujours malade, hein. Il vient, je prends quelqu'un d'autre, il vient, il plante, il plante, il plante. Quand je viens, je vois les plantes, hein. Quand je repars, il n'y a plus rien. Donc, ils ont organisé le vol généralisé et se passe rien. Quatrième année, je me dis non, là, c'est quand même, je suis moins malade. Et puis à l'université, ça n'a pas été comme je pensais. Hein. Bon, donc je vais un peu laisser là-bas parce qu'ils ne veulent pas voir de la diaspora de ce côté. Les docteurs de l'étranger, on veut pas ici, on veut les docteurs bien locaux et mais qui vont faire des missions à l'étranger. Vous voyez un peu, c'est pervers comme tout. Et c'est toute la chaîne ici hein, qui est pervertie. Et donc, quatrième année, donc je dis, bon, moi, je reste là, je vais rester un peu plus là, je vais suivre. Et moi, je rencontre de tout à mon petit frère, je lui dis et tout. Ah ben, j'arrive au champ, je trouve que bah il a jamais des gens qui vont bien m'insulter. Oh, tu es docteur en friperie, parce que j'ai commencé à vendre un peu des fringues là et tout et tout. Bon, je vous dis, c'est un peu le contexte environnemental. Tu es quoi, t'es rien, des gens qui viennent d'ailleurs. Ouais, un peu quelqu'un vient sur votre terre et vous insulte proprement, c'est votre préfet qui l'amène et il vient le soutenir. Bon, bref. Des emmerdes, c'était l'an dernier qu'on arrive sur cette quatrième année et je vais porter plainte quand même pour dégager les étrangers et puis je veux continuer avec mon petit frère qui vraiment m'emmerde. On me dit non, non, c'est ton frère, laisse tomber. Bon, je laisse tomber et cette année rebelote. Il recommence, mais alors d'une brutalité, il arrive. Avant, pendant les 3-4 ans qu'il fait ça, il est soutenu par le village. Hein. Les cousins du village, des losers qui font rien. Bah, parce qu'ici, on ne fait rien et quand vous arrivez, ne faites surtout rien. Si vous faites quelque chose, c'est des problèmes. Alors, cette année, il revient à la charge, je veux faire un travail là, où là, il vient dans le champ avec deux machettes, carrément. Il veut sectionner la tête de celui avec qui je travaille. On peut pas dire ici mon employé parce que ici c'est les contrats, c'est tacite, c'est quelqu'un qui vous aide et qui vous apporte la force de travail. Bon, vous payez ce que vous avez. Et il veut le sectionner, l'autre part, et quand il part, il se blesse. Ah, moi, je lui dis, c'est pas possible, tu n'as pas tué les gens ici, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, oh, mais c'est même toi que je veux, c'est toi-même que je cherche. Il vient, comme il veut m'agresser, je sais pas, moi, j'essaie de filmer ce que je peux. Dans toute cette panique généralisée, j'ai pu filmer qu'un très, très petit bout. Il ouvre une violence, il dit, oh, monsieur, il faut partir, dégage. Je lui dis, il part pas, parce qu'il n'est pas chez toi. Ici, il bouge pas. Ah, ben, s'il bouge pas, alors là, ça va pas aller comme ça. Bon, bref, à la fin, il m'insulte, mais je peux. Faut juste que je l'écris parce que là, il faut un livre audio. Tout ce qu'il m'a dit, c'est, vous savez, le noir, c'est quelqu'un, s'il vous suce pas, quand il a fini de vous sucer, il commence à vous humilier, à vous piétiner, à vous rabaisser plus bas que terre. Ce frère, chaque fois il m'appelle à Yaoundé, viens, et tu viens quand? Mais c'est pour me sucer. Alors maintenant, il ne peut plus me sucer, voilà. On arrive à ça. Bon, bref, là, c'est trop. Il crée une situation, il crève les pneus, il fait tout un cirque. Bon, bref, je porte plainte. Alors, c'est la chronique judiciaire. Je porte plainte. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, il fait tout ça avec la complicité de mes propres frères et sœurs. Ma famille proche, avec qui moi je vis, dans soi-disant, ils ont loué un truc, appartement familial à Messassi, là-bas où j'étais. Je suis là, avec des orphelins qui veulent être orphelins à vie, vous savez, des gens qui veulent être assistés, ils veulent rien faire, ils ont 20 ans passés, ils sont assis là, il faut les nourrir, il faut tout faire. Alors moi, je rentre pas trop dans ça, je suis là quand même. Et puis, c'est eux qui le poussaient à faire tout ça, ils m'ont écrit des courriers. incendiaires. Chacun, je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe. Des courriers. Alors que je les ai sollicités la première année, ils n'ont rien fait. Moi, j'ai écrit des courriers incendiaires pour me dire tout le mal qu'ils pensent de moi, comment je suis une égoïste, comment je n'ai rien fait pour eux, comment je suis rien, comment. Si j'étais une vraie femme, je serais mariée. Qu'est-ce que je fous là? Je viens de sur le terrain avec les hommes. Mais bien sûr, il suffit juste d'avoir un sexe. Heureusement, le président Biya, dans tout ce qu'on peut lui reprocher, il a dit. Maintenant, le droit, c'est pour tout le monde. Tous les sexes, c'est égaux. Vous avez les mêmes droits. On a eu. Je peux même pas vous dire comment j'ai passé ma vie en France. J'ai tout raté. Je crois que je vais rattraper quoi. Et tous ceux qui disent ça, c'est des zéros. On dit ici dans zéro. C'est des sans-papiers là-bas. Ils sont deux là-bas ou trois, je sais pas quoi, qui sont passés par des voies, probablement qui m'en veulent parce qu'ils m'ont demandé de les aider. Moi, j'ai dit, j'aide pas ce genre de conneries parce qu'on laisse pas un boulot au Cameroun pour venir traîner en France. Moi, je suis pas d'accord. Et puis, enfin, je me dis, je suis pas d'accord. Chacun fait sa vie, mais faut pas me mêler à ça. Bon, bref, on va prendre tes affaires à Misasi, fout le camp. Ah ouais, ben oui, parce que moi j'ai commencé à payer ce loyer, j'ai dit je participe plus à ça, mais j'entretenais la maison. Oh, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, mon petit frère, on l'a convoqué ici. Pendant 3 semaines, impossible, il répond pas aux convocations ici au village. Vous voyez, la police vous convoquez quelqu'un, il ne vient pas. Il fallait aller lui courir derrière. Puis de la police, ici aussi, hein, le commissariat, la gendarmerie, ils se pressent pas. Bon, ils ont leur temps. Et c'est limite s'il faut leur payer le carburant hein, pour aller. Et finalement, il fallait que nous-mêmes, moi-même, j'entre en jeu, qu'on le piste, qu'on trouve. Parce que oh, il sort de chez lui très tôt, avant 6 heures. Mais il est là, on le voit. On s'est organisé, on a aidé, on allait le prendre au bout de 3 semaines. Il passe quand même, on parle, on nous fait la confrontation. Et puis, parce que celui qui s'est blessé, il fallait soigner. Vous voyez, toute l'armada. Bon, et puis les pneus crevés, non, mais toute une histoire. La personne est tranquille. Et finalement, il est quand même déféré. Après le week-end, détention, il est déféré. Il dit, il s'en fout, mon petit frère avocat, il va aller le sortir là-bas, il n'a rien à cirer. Il est déféré au chef-lieu de département, Saïzeka, il va. Bon, le procureur trouve quand même que ça, quand même, c'est pas possible d'aller agresser les gens, parce qu'ici, c'est devenu la norme d'aller agresser les gens avec des machettes. On tue même pour un terrain qu'on n'arrive même pas à exploiter de façon extraordinaire, des petits champs. Et donc, le procureur l'a placé directement aux arrêts. Il a été placé. Et ça fait un mois. Nous sommes passés l'autre jour, 4 jours avant qu'on passe, parce qu'on est passé le 16 mars. On me dit, oh, de toute façon, ton délire, j'entends ton délire. Là, il est déjà sorti. Il a eu une liberté provisoire. Ah, je dis, bah, c'est pas grave. S'il est sorti, c'est très bien. Si on sort les assassins comme ça, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas ma folie. On arrive au procès, donc le 16 mars, à la convocation de l'affaire. On lui demande, alors là, je suis stupéfaite. Je vois un avocat, c'est mon petit frère, il n'est pas venu. Il a envoyé un avocat, quelqu'un pour. Oui, je vois une petite sœur et un petit frère qui traînent là. Lui, quand même, il n'était pas venu. On ne l'avait pas extrait de prison. On l'a extrait, il vient. Et donc, l'affaire, on l'appelle. Le monsieur avec qui je travaille contre lui. Et parce que moi, je n'ai pas encore porté plainte pour les troubles de jouissance et tout, parce que là, on va rentrer dans le foncier. Bon. Lui, donc, déjà, pour ce qu'il a fait, il faut répondre de ces actes-là de criminalité, de tentative. Et le juge lui demande, plaidez-vous coupable ou non coupable? Ben, il dit non coupable. Alors qu'ici, quand il a été en garde à vue, il avait dit qu'il plaidait coupable. Bon. Ensuite, souhaitez-vous être jugé aujourd'hui? Il dit non, il ne souhaite pas être jugé aujourd'hui. Ah, mais son avocat arrive. L'avocat dit qu'il demande la liberté provisoire de son client. Ben c'est là où quand le procureur dit, mais c'est pas possible. Nous, on est prêt pour le dossier. Quand il dit nous, c'est le ministère public. On est prêt à ce qu'on juge aujourd'hui, enfin, qu'il y ait les débats là aujourd'hui, tout au moins. Qu'est-ce qui empêche de faire le débat? Le dossier est clair. On est prêt. Pourquoi la prochaine fois? L'avocat essaie peut-être de faire savoir que lui, il n'est pas prêt et donc il demande la liberté provisoire. Ah, c'est là le procureur lui dit, ben non. Le juge, à un moment, il n'a pas tout compris, il appelle parce que le juge, je crois qu'il n'est pas au courant de toutes les infractions. Il appelle mon petit frère et ma petite soeur qui sont venus. En fait, ils ont prévu tout qu'ils allaient le libérer parce que moi, je délire. La justice va leur donner raison. Mon petit frère avocat, vous voyez, dans les familles aujourd'hui en Afrique, il y a un désastre dans les familles parce que ce n'est plus le droit d'aînesse qui donnait quand même une certaine hauteur d'esprit, une certaine moralité qui joue. C'est le statut. Le statut, je suis, et puis au-delà du statut, la politique est entrée dans les familles. Celui qui a peut-être un peu d'argent, il peut corrompre les gens, il peut les esclavagiser, les vassaliser, vous voyez un peu. Ah donc mon petit frère avocat, il joue à ça, c'est son problème. Et le juge demande les garanties morales, les garanties, ils sont tous enseignants. Ils pensaient qu'en disant qu'ils sont enseignants, bah, c'était la grosse garantie. Bah, peut-être que ça aurait pu le faire, mais quelqu'un qui est venu quand même agresser les gens avec une machette et qui se fiche des convocations et qui se comporte en se disant, mais comment il dit qu'il veut pas être jugé? Moi déjà, j'étais stupéfaite. C'est vous. Le bourreau qui choisissait si vous voulez être jugé ou pas. Et vous décidez, vous êtes coupable ou pas, malgré, en dépit des faits. Et quand même, le procureur a dit non. On peut pas donner liberté. Vous dites que vous ne voulez pas qu'on vous juge, mais vous demandez la liberté provisoire. Est-ce que cela a un sens? Donc c'est vous finalement qui êtes le juge. Et quand les gens ont ce culot-là, c'est parce qu'ils savent qu'il est soutenu par toute ma famille. Vous voyez, il sait qu'il a les frères derrière, les sœurs derrière, qui ont poussé. Donc, chaque fois qu'il faisait tout cela, je croyais qu'il était seul, mais il n'était pas seul. Il était avec tout ce monde-là qui est resté bloqué aux années 1985, quand je suis parti en France, et qu'eux, ils sont restés là et qu'ils estiment qu'ils sont dans la misère. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte du genre de raisonnement que c'est. Moi, je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur géniteur. Hein. Et me venez me faire porter une responsabilité pareille, ça me dépasse, je ne comprends pas. Et on parle de jalousie, moi, ça, ce n'est pas trop mon truc, mais je parle de méchanceté gratuite. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de me chasser du village. C'est même de me chasser du Cameroun. Si on pouvait, vous voyez. Alors, ils ont réussi pour Messassi. Bon, mais Yaoundé, je trouverais bien un pied-à-terre. Me chasser du village maintenant, c'est un problème. Donc, quand on quitte la chronique, on a reporté l'affaire en avril, là, je ne sais plus quel jour, parce qu'il n'a pas voulu être jugé. Donc, il est reparti en prison. Heureusement, il n'y a pas de liberté provisoire parce que il se serait, la famille m'aurait humilié, elle est venue pour ça, se serait moqué de moi. Alors, quelqu'un qui a fait une agression à main armée, il se balade librement, ça, j'ai jamais vu ça. Alors, heureusement, le procureur a dit non parce que le juge, lui, il y a trop d'affaires, il y a trop d'affaires le jour de l'audience, c'est trop, je ne sais pas comment ces juges y font, parce qu'en plus, ils prennent des notes, c'est un travail de fou. Et il n'y a que le procureur qui connaît bien les dossiers. Donc, c'est aussi un autre travail de fou. Et finalement, ils sont partis bredouille. Lui, il est reparti en prison. Mais et j'arrive ici. 2 jours après, qu'est-ce que j'apprends? Je rentre au village parce que de Ezeka, le fief, c'est là. Il y a la statue de Oum Niobe hein, qui traîne hein, pour ceux qui suivent l'actualité, pour ce qui va être écrit sur l'histoire. La statue trône à l'entrée de la ville, donc fréquemment que j'y vais, je la vois. Ezeka, Boumyébél, je ne connais pas le kilomètre, mais c'est 40 minutes en voiture, et puis de Boumyébél, le Boudmakak, c'est 17 kilomètres. Donc, je reviens ici, 2 jours après, qu'est-ce que j'entends? Ah, il y a un cousin sur place qui a envoyé une nouvelle, enfin, qui dit qu'il va déposer du poison mystique dans mon champ. Comme ça va m'attaquer. Parce qu'ici, les gens ont des problèmes au niveau des jambes et tout et tout. C'est une forme de poison paralysant qui vous crée beaucoup de problèmes de mobilité et des cicatrices dans les jambes et tout. Et qui va le déposer. Et ainsi, je vais finalement m'en aller. Alors, vous tombez dans des complots incroyables. C'est la dernière version, j'ai appris au retour du 16, hein, le 17, hier. vous tombez dans des histoires. Alors, dès que l'Afrique va se développer, les villages sont des lieux de gangstérisme. Hein? Comment dirais, les capitales sont loin là-bas. Je sais pas, c'est un pays de fous, quoi. Je comprends pas comment la loi, là aussi, peut s'appliquer d'une façon différente en ville et dans les villages, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi tellement que, là, je finis avec la chronique sécuritaire. Ils érigent ici systématiquement des barrages sauvages sur la route. Vous quittez 17 km, bout de macaque, Boumbiébel, il y a 3 barrages sauvages. C'est-à-dire que c'est la sécurité elle-même qui organise. Ils disent qu'ils peuvent intercepter des bandits. Quels bandits? Et vous devez payer, tout le monde paye 500 francs CFA tous les jours pour passer là. Ça veut dire, bout de macaque, Boumbiébel, qui devait être à 1000 francs, c'est à 1500. Je parle en CFA. On ne peut rien faire. Parce que, justement, les chauffeurs disent, ben, puisque nous devons donner 500 francs tous les jours à tous les barrages, c'est-à-dire 1500 francs, nous, on essaie de récupérer 500 francs quand même. Alors, c'est une histoire de fou. Ces barrages-là, quand vous arrivez, ils vous stoppent pour un oui ou pour un non. Ils savent très bien, personne n'a les papiers. Alors, dernière fois, enfin, les documents, les gens qui circulent, c'est les, on dit ici les bensikineurs, mais c'est les motos ici au village, c'est la moto. En gros, très peu de voitures. Donc, vous venez à chaque barrage, mais c'est par jour. Vous avez donné vos 500 francs, c'est bon. Allez, retour, il y a quelqu'un qui est là qui vérifie. Alors, l'autre fois, je passe avec. Ils s'en foutent, hein, mais quel que soit qui le motoman transporte, si vous ne payez pas les 500, vous restez là et puis on revient. Ah oui, mais vous êtes passé là trop vite. Au lieu de demander leur argent, on va mettre la voiture en fourrière. Là, c'est un petit gendarme qui vient d'arriver. Je vais mettre la voiture en fourrière tout de suite. Là, elle est en fourrière, la moto. Et puis d'ailleurs, donnez-moi les papiers, donnez-moi ceci. S'il n'y a pas tous les papiers, elle part en fourrière. Et moi, je m'hasarde, je dis, bah, je ne m'hasarde pas parce qu'une fois, je parle avec un autre flic, la même chose. Et il m'a dit, oui, madame, vous savez, il y a un deal ici. Ils n'ont pas de papiers pour ces motos-là. Et c'est en contrepartie, ils doivent donner 500 francs, sinon personne ne roulerait. Ah, moi, je lui rappelle ça, que, mais quand vous demandez des papiers pour ne pas mettre la moto en fourrière, vous savez très bien, vous n'aurez pas tout. Vous aurez une partie. Alors, il me dit que j'ai troublé son travail. Moi aussi, il m'amène à la gendarmerie, il m'embarque au poste, il prend la moto, il démarre, il faut que je monte. Moi, je dis, je monte pourquoi? J'ai rien à faire dans votre histoire. Il m'a tiré par les bras, on s'est battu, on s'est battu, on s'est... parce qu'après, il veut que moi, je monte, qu'avec lui, on va à la gendarmerie. J'ai dit, je monte pas avec vous, tout seul. Je monte pas avec vous. Je monte avec celui qui a la moto, au moins. Après, il me dit, non, il était là avec un collègue, eux deux, ils m'embarquent. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir dans votre affaire? Ils me disent que j'ai troublé l'ordre, j'ai laissé troubler le travail, je sais pas quoi. Mais déjà, c'est du racket. Parce que, franchement, c'est encore ce que je disais tout à l'heure sur les institutions, ça va pas me créer du bien, si, parce que ils étaient là, ils savaient, ils disent que je portais des plaintes. Bah, les bassins n'ont plus d'argent parce qu'ils font que porter plainte. Et ici, la justice, ça coûte cher. Si en ville, vous êtes à Yaoundé, vous n'avez jamais un barrage sauvage sur la route. Dans les autos, les motos travaillent librement, les taxis travaillent librement, les motomans travaillent librement. Il y a des contrôles de police comme partout ailleurs, ça peut arriver, mais ce n'est pas des trucs systématiques où on rackette les gens au quotidien. Et s'il y a des bandits qui vont circuler, ça sera pas dans les campagnes, ça sera quoi? Qu'est-ce que c'est? Et c'est pas là. Et bon, d'accord, si c'est les bandits, pourquoi on prend l'argent? Pourquoi on cotise? Mais je vous dis, c'est tous les jours. Et c'est le petit villageois qui paye. Il n'a déjà pas grand-chose, c'est lui qui paye. Et quand il paye comme ça, il comprend déjà que le système est un système voyou. Et ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que quand on parle de venir aider l'Afrique à se développer, bah, elle va se développer comment? Elle va se développer comment? C'est que des choses comme ça, des choses comme ça, etc., etc., chronique sécuritaire. Mais si vraiment une chose peut être faite, qu'on essaie un peu de soulager ces villageois de cette charge lourde-là de racket sécuritaire, c'est pas normal. Et en plus, bon, alors sinon, en contrepartie, qu'on leur demande de faire tous les papiers de la moto. Ils roulent, ils n'ont pas d'assurance. Mais ça, ce n'est pas le problème. Ils n'ont pas de contrôle technique, ce n'est pas le problème. Ce qui compte, ce n'est pas la sécurité en réalité, c'est la cotisation. Tous les jours, on donne 500. Tous les jours, on donne 500. À la fin du mois, c'est beaucoup d'argent. Pour les villages et dans les villes et les axes lourds, ben rien. Alors, c'est. Oh, c'est la vie de l'Afrique. Hein. Donc, on est de quoi, je ne sais pas exactement. Bon, la route passe, hein, c'est bien. On fait une nouvelle route parce que Botmakak et Bafia, ceux qui verront, c'est les premiers, même Ezeka d'ailleurs, c'est les premiers départements que les Allemands ont fait les années 1900, je sais pas combien, 14, et c'est les plus attardés. Il n'y a rien à les comprendre. Amis de Radio Silence, vous avez. La chronique judiciaire continue, hein. Parce qu'elle va être intéressante celle-ci, puisque la prochaine fois, probablement qu'il y aura une liberté provisoire d'un assassin. Bon, on va beaucoup rigoler. Et puis, bah, c'est la justice, hein, on ne dira rien. Hein, on dit quoi? L'autorité de la chose jugée. Bon. Amis des Radio Silence, vous avez écouté Elise Mbok, c'était Flash sur le monde. Je vous dis à bientôt.